première question. Pourquoi avoir voulu écrire un livre sur le procès de Marie-Antoinette ? Il y a déjà eu ces dernières années beaucoup de livres, mais sur la période antérieure.
Il y a eu beaucoup de livres sur quoi ?
Sur sa vie de reine, sur...
Ah oui, il y a eu énormément de biographies, en effet, qui lui sont... C'est une espèce de... C'est un mythe, et on la dépossède d'ailleurs en permanence. L'idée, c'est d'essayer de la restituer à elle-même. Mais personne ne l'a regardée. Et puis d'abord, je me suis intéressé à ce procès en dehors d'elle, au départ. C'était pas Marie-Antoinette qui m'intéressait. C'était le processus de la terreur. Vous savez, l'histoire, c'est un jeu de mécano. En fait, on a des portes, des serrures et des clés. Et on essaye de trouver la bonne clé qui ouvre la bonne serrure, qui vous permettra, par la bonne porte, d'accéder au bon contexte. Au fond, c'est choisir son lieu, son événement, comme si c'était un aimant, et que cet aimant attirait le plus de limailles de fer possible pour donner à comprendre la période dans laquelle cet événement s'inscrit. Donc choisir le bon événement. Et en fait, moi, je sortais d'une biographie de Fouché, à laquelle j'ai consacré plusieurs années de ma vie. J'avais traversé la terreur, la révolution et la terreur sur le dos de Fouché, si j'ose dire. Je l'ai regardé un peu et je l'ai observé à travers ses yeux. Et j'ai trouvé cette période de la révolution, qui est au fond un mythe fondateur de notre histoire contemporaine, et la terreur en particulier, tellement incroyable et tellement fascinant, et au fond tellement oublié, que j'ai eu envie d'y retravailler d'une façon ou d'une autre, et peut-être en changeant d'angle de tir, de position. Peut-être que j'avais la position du tireur couché avec Fouché, que je voulais trouver une autre position, à la fois du point de vue de l'objet, c'est-à-dire du sujet que j'allais choisir, mais aussi du point de vue de l'écriture. Fouché, c'est une biographie, c'est une écriture biographique avec les contraintes, les avantages et les inconvénients que ça peut représenter. Et là, je me suis décidé à tenter un récit historique. Au fond, c'est un peu la première fois que je tente un récit historique. Et donc, j'étais derrière Fouché. Et puis, en même temps, le Centre des Monuments Nationaux m'avait demandé de réfléchir à la réorganisation de la conciergerie, du musée de la conciergerie. Donc, je me suis promené beaucoup à la conciergerie, en bas et en haut, dans les cachots et puis dans les salles du palais de justice, et en dehors des heures de visite. Et un jour, dans la cellule de Marie-Antoinette, celle qui est considérée être la cellule de Marie-Antoinette, qui ne l'est pas, en fait, maintenant, c'est un monument expiatoire, c'est une chapelle expiatoire, je me suis dit, voilà, je crois que j'ai trouvé, moi qui cherche depuis plusieurs mois, un événement et un lieu qui me permettent d'expliquer mieux, de comprendre, de raconter mieux la terreur. Je crois que j'ai trouvé mon événement et mon lieu, c'est le procès de Marie-Antoinette, trois jours et deux nuits, du 14 au 16 octobre 1793. Et donc je suis arrivé à ce procès par la Révolution et non pas par Marie-Antoinette. Et je me suis très vite rendu compte que si on voulait en comprendre les tenants et les aboutissants, les enjeux, si on voulait comprendre comment ce procès s'inscrit dans le processus révolutionnaire et quelle importance majeure il a dans l'ouverture, comme si c'était une ouverture musicale funèbre, si vous voulez, dans l'ouverture de la terreur, il fallait regarder le procès sous toutes ses faces, sous tous ses aspects. Les biographes de Marie-Antoinette qui se sont intéressés au procès, se sont intéressés à son procès et à sa mort comme une fin de biographie, comme une fin de vie. Et ils ne se sont intéressés à son procès que de son point de vue. Moi, si on veut en comprendre tous les enjeux et peut-être aussi en restituer la dramaturgie, et je dirais plus encore la tragédie, je pense, j'ai considéré qu'il était nécessaire de le regarder à la fois du point de vue de la Révolution et du point de vue de la monarchie, incarnée par cette reine déchue, malade, prématurément vieillie, enfermée depuis un an et demi, séparée de son mari, mort sur l'échafaud le 21 janvier 1993, séparée de ses enfants, de son fils, puis de sa belle-sœur et de sa fille, Madame Royale, depuis le début du mois d'août. Et donc, regarder ce procès comme s'il était le lieu, évidemment le lieu de la tragédie. Cet événement m'a constamment fait penser à Antigone et à la nouille d'Antigone. C'est ce que dit... j'ai adopté un peu la position du cœur antique de la tragédie grecque, en fait. Je laisse vivre mes protagonistes, je dirais presque mes personnages, sur la scène du procès. J'entre par la porte et je ressors par la fenêtre. Et en même temps, je commente ce qui se passe comme le cœur antique de la tragédie grecque commentait la tragédie à l'époque de Sophocle. Et que dit Anouilh en introduction d'Antigone ? Il dit, vous voyez la petite brune, la petite maigre là qui est au fond de la Seine, elle s'appelle Antigone, elle ne sait pas qu'elle va mourir, mais elle va mourir. Et c'est lisse, c'est propre, c'est net la tragédie. C'est ça le procès de Marie-Antoinette. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai construit en 4 actes, absolument comme une tragédie grecque. Et ce qui m'intéressait, voyant ce procès des deux côtés, j'avais affaire au fond à 2 mondes, le monde de la monarchie, le monde de l'Ancien Régime, très vite appelé Ancien Régime, et le monde de la Révolution face à face, je dirais beaucoup plus évidemment face à face que côte à côte. Ces deux mondes coexistent, se parlent, se touchent, mais ne se comprennent et ne s'entendent pas. Et non seulement ne s'entendent pas, mais se haïssent à un tel point que la survie de l'un dépend de l'élimination et de la suppression de l'autre. Et c'est cette coexistence de mondes autistes, cet autisme du procès, augmenté encore, aggravé encore des fantasmes qu'il véhicule, ce procès, qui m'a intéressé. Et j'en ai trouvé, j'ai vu dans cet autisme, dans cette coexistence des mondes, une forme de modernité dans la mesure où il vous est certainement arrivé d'en avoir l'impression fugace, mais on a sans cesse dans nos vies l'impression de coexister, d'être dans un monde et de croiser d'autres mondes qu'on entend ni ne comprend. Alors, on n'en est pas évidemment à ce stade de violence qui était celui de la terreur sous la Révolution, mais ces coexistences de mondes qui ne s'entendent pas m'ont toujours fasciné. Et là, j'en avais un exemple, je dirais, tellement abouti qu'il en était dramatique. Et ces deux mondes, c'est quoi ? Je peux terminer juste sur cette idée-là. Ces deux mondes, c'est quoi ? C'est une femme face à des hommes. Et au fond, le procès de Marie-Antoinette, c'est un procès fait par une assemblée d'hommes à une femme. Et on pourra reparler de la façon dont la Révolution considère la femme. Et Marie-Antoinette n'est pas seulement à son procès une reine, elle est aussi une femme et une mère. Donc c'est d'abord ça, c'est la première dimension du procès. L'autre dimension, il y en a beaucoup, c'est que c'est le procès de l'égalité, fait par l'égalité, à ce qu'on pourrait appeler l'ancienne monarchie, les ordres, la hiérarchie des ordres, les privilèges, l'étiquette de cour qu'incarne Marie-Antoinette, deuxième aspect du procès. C'est le procès qui est fait par la nation et par la patrie, à une accusée qui est considérée comme étrangère, et non seulement étrangère, mais cas aggravant autrichienne, et on dira peut-être quelque chose de cette appartenance de Marie-Antoinette, la tigresse d'Autriche, cette origine viennoise de Marie-Antoinette, petite archiduchesse, 11e enfant de Marie-Thérèse d'Autriche. C'est aussi probablement le procès fait par la boutique et par la petite bourgeoisie à quelqu'un que les jurés, les juges, l'accusateur public, jusqu'en 1789, n'auraient même pas pu imaginer approcher. C'est une sorte de procès de la revanche sociale. Et peut-être aussi, est-ce le procès de l'ennui de la vie quotidienne, de la vie ordinaire des Parisiens, fait à la vie extraordinaire, fantasmée et rêvée de cette femme jusqu'en 1789 à la cour de Versailles, et surtout dans cette thébaïde du petit Trianon, si secret qu'il en était si fantasmé. C'est tout ça le procès de Marie-Antoinette. Et donc on voit bien que là, on a affaire à 2 mondes qui ne peuvent s'entendre ni se comprendre et qui vont s'éliminer. Je dis qu'ils vont s'éliminer parce que, autre dimension de ce procès, avant qu'on le contextualise et qu'on explique pourquoi il a eu lieu. Autre dimension, il y a une communauté dramatique de destin dans ces 3 jours et ces 2 nuits. Car non seulement la reine va mourir, Marie-Antoinette va mourir sur l'échafaud le 16 octobre 1793 à midi, place de la Révolution, dans l'Axe Royal, face au palais des Tuileries, qui est le dernier palais qu'elle a habité. Mais tous ces juges, la plupart de ces juges, la plupart de ces jurés, car il y a eu un jury de jugement, représenté par 15 jurés, dont on parlera, la plupart des témoins qui vont défiler à la barre, il y aura 41 témoins, tous à charge, évidemment. C'est un procès politique, vous l'aurez compris, elle était condamnée d'avance, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. La plupart de ces gens-là vont également mourir. Également mourir. Vous savez, c'est le mot de Vergniaud, le Girondin Vergniaud, qui est originaire de cette région, la révolution est comme Saturne, elle dévorera tous ses enfants. Et en effet, la plupart des jurés, des juges proches de Robespierre vont périr après la chute de Robespierre, le 9 Thermidor en deux, et vont monter également les uns après les autres sur l'échafaud. Ceux qui réchapperont à ce procès et à la terreur d'une façon générale ne s'en tireront pas beaucoup mieux. Certains qui traverseront les différentes périodes qui suivront jusqu'à la Restauration auront tellement mauvaise conscience pour différentes raisons d'avoir été présents à ce procès qu'ils changeront de nom. L'un des juges, qui était un ancien jésuite, oui, et les jésuites on les retrouve partout, qui était l'un des cinq juges du procès de Marie-Antoinette, s'appelle Donzé Verteuil, termine sa vie dans le grand séminaire de Nancy, meurt en 1822. Et sur son acte de décès, on trouve un nom d'emprunt. Il y a des destinées des deux côtés absolument fracassées, je dirais, et incroyablement tragiques.
Alors, vous avez parlé déjà des juges. Je trouve qu'il y a une excellente idée dans le livre, c'est de juxtaposer les deux signatures dès la page 8, celle de Marie-Antoinette, celle de l'accusateur public, son bourreau, en quelque sorte, Fouquier-Tinville. Qui est Fouquier-Tinville ? Qui sont ces juges? Qui sont les jurés auxquels vous avez déjà fait quelques allusions? Donc, qui sont-ils?
Alors, pour expliquer ce qu'ils sont, il faut expliquer le pourquoi et le comment peut-être de ce procès. Comment ce procès arrive-t-il? Il n'est pas innocent, il n'arrive pas par hasard. À première vue, il n'y avait aucune raison, c'est ce que dit d'ailleurs Chateaubriand, le procès de la reine, le procès du roi a été la grande faute de la Révolution, le procès de la reine en a été le crime. La reine n'est pas couronnée à Reims avec son mari en 1775. On lui ôte tout droit à la régence dès les débuts de la Révolution. L'Assemblée nationale vote un décret en 1790 pour l'exclure du système de la régence, quoi qu'il arrive, en cas de mort du roi constitutionnel, qui est Louis XVI. Et donc, d'un point de vue juridique, du point de vue du droit, elle n'a aucun pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir d'un point de vue légal. Et pourtant, on va la traîner devant le tribunal révolutionnaire et pas devant la Convention. C'est une différence avec le procès du roi, qui est beaucoup plus intéressant, ce procès de la reine, parce que c'est vraiment une image en noir et blanc. J'ai essayé de vous l'expliquer. Ces deux mondes sont vraiment... Il n'y a pas 50 nuances de gris, si j'ose dire, si je peux me permettre ce titre un petit peu affriolant. Tout est en noir et blanc dans ce procès. Pourquoi a-t-il lieu alors que à première vue, Marie-Antoinette, officiellement, n'a jamais exercé aucun pouvoir du point de vue de la monarchie. Parce qu'elle va devenir très rapidement le bouc émissaire idéal de ce qu'on pourrait appeler les impasses de la jeune République, les impasses de la Révolution. La République, quand le procès a lieu en octobre 1993, est toute jeune. Elle a été proclamée après la chute des Tuileries le 10 août 1792. Elle a été proclamée le 21 septembre 1792 par les 700 conventionnels à peine élus qui se réunissent dans la salle du manège non loin des Tuileries. Et elle va très vite se retrouver confrontée à de graves difficultés, difficultés intérieures et difficultés extérieures. Difficultés intérieures, dans les premiers mois de 1793, le territoire de la République est en grande partie en insurrection. Ce sont les insurrections chouannes et vendéennes dans l'ouest de la France. Ce sont les insurrections girondines et royalistes à Lyon en juillet 1793, mais aussi dans une grande partie du midi de la France, à Marseille. Et puis, ce sont aussi les tentatives d'invasion du territoire par la coalition de l'Europe des rois qui s'est formée très rapidement entre 92 et 93 contre cette jeune république dont l'existence est insupportable à l'Europe telle qu'elle existait traditionnellement et dans les équilibres qui étaient les siens jusqu'à 1789. Et le territoire de la République est envahi par les Prussiens et par les Autrichiens au nord et à l'est. Valenciennes et Condé sont prises au début de l'année 1793. Les Anglais mettent le siège devant Dunkerque. Les Anglais au sud ont pris Toulon, une flotte combinée anglo-espagnole. La République est dans une impasse. Et la République fonctionne sur un principe, vous le connaissez, au-delà des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. L'un des principes fondateurs de la République française, c'est le principe d'indivisibilité. Et à chaque fois que la République s'est retrouvée confrontée, acculée à ce genre d'impasse, qu'elle soit militaire ou politique dans son contexte intérieur, elle a cherché une excuse, une justification et une légitimation à ces impasses et à ces difficultés. Et cette légitimation, elle porte un nom et elle le portera bien souvent au cours de notre histoire contemporaine, à chaque fois que nous serons confrontés à des crises, que ce soit un peu plus tard en 1815 ou en 1940 ou en 1945. Cette justification porte un nom, c'est le mot trahison ou le mot complot. À chaque fois que la République s'est retrouvée dans une impasse, elle a crié à la trahison et au complot. Souvenez-vous du discours de Brissot, qui est proche des Girondins lui aussi et qui va mourir sur l'échafaud peu après Marie-Antoinette, au club des Jacobins dès 1791, dès avant que la République, ce qui est encore la monarchie constitutionnelle, n'entre en guerre avec le roi de Hongrie. Brissot dit ceci, « Vous l'avouerai-je, messieurs, nous avons besoin, la Révolution a besoin de grandes trahisons. » Et non seulement la trahison a été une explication, une légitimation à ces impasses, mais elle est devenue petit à petit, cette trahison, le combustible même de la Révolution. C'est ce qui explique et c'est ce qui fait bouger cette mécanique révolutionnaire depuis le serment du jeu de paume de 1789 jusqu'à la terreur qui commence, dont le procès de Marie-Antoinette est, je dirais, le moment inaugural qui commence en octobre 1793. L'idée de complot et de trahison est au cœur même du processus révolutionnaire, des dérives révolutionnaires. Et quel meilleur client, si j'ose dire, il n'y a pas de meilleur client que Marie-Antoinette qui va servir autour de cette idée d'explication des impasses de la Révolution par le complot et par la trahison, qui va servir de bouc émissaire et qui comparaîtra donc devant le tribunal parce qu'elle est le moyen, au fond, son procès est le moyen de ressouder la Révolution, de recréer de l'indivisibilité. La République s'est toujours construite sur la désignation de l'ennemi. Dans un univers mental qui est celui de l'indivisibilité, il n'y a pas d'opposition politique possible, il n'y a pas de discussion. Celui qui n'est pas avec vous et contre vous et doit mourir. Ça c'est vraiment, je dirais, la construction mentale même de toute la Révolution. Et Marie-Antoinette, au fond, et le procès quasiment sacrificiel de Marie-Antoinette est un des éléments qui vont servir à la République à se construire, à trouver ses légitimités sur la désignation et par la désignation de l'ennemi. C'est une chose à laquelle nous avons à réfléchir, nous autres républicains aujourd'hui, de cette République, à propos de cette République qui sans cesse s'est construite sur de l'exclusion et sur de la désignation et sur de l'élimination. Je ne veux pas faire d'extrapolation avec les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, mais autant essayer de comprendre et d'observer ce qui s'est passé aux époques fondatrices de cette République autour de cette idée d'exclusion. Et Marie-Antoinette en a été, je dirais, l'un des personnages les plus importants.
Alors, si nous en venons au procès...
Juste une toute petite dernière chose. Donc, excusez-moi, mais je voudrais juste terminer pour que vous compreniez bien les enjeux, le contexte qui préside à ce procès. Donc, je vous ai parlé de cette nécessité de désigner un ennemi, de cette nécessité de la trahison, mais ceci arrive, et ces impasses arrivent et s'expliquent par un élément qui est également extrêmement contemporain, extrêmement moderne et que nous connaissons encore aujourd'hui, même si nous le vivons dans une situation infiniment moins violente. Et c'est un paradoxe qui va traverser toute l'histoire contemporaine de notre République française. Ce paradoxe, il est le suivant. C'est que la légitimité du peuple a toujours été incarnée par deux types de représentations. Une représentation d'assemblée, C'est, je dirais, c'est la démocratie représentative, et elle est incarnée sous la Révolution par la Convention nationale, les 700 députés de la Convention nationale qui ont été élus d'ailleurs sur un fort, très immense taux d'abstention, mais peu importe, et dans une atmosphère qui était déjà une atmosphère de peur. Mais ça, c'est une forme de légitimité. La Convention prétend incarner le peuple, donc démocratie représentative, et aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale. Et puis, il y a toujours eu, dans le processus révolutionnaire, une deuxième forme d'incarnation du peuple, et celle-ci relève de ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe. Et cette démocratie directe, à Paris, sous la Révolution, elle était incarnée, non pas par la Convention nationale, mais par ce qu'on appelait les 48 sections parisiennes, c'est-à-dire les activistes, les quelques 5% des 25 millions de Français de l'époque qui ont fait la Révolution française. Ces activistes, ces sans-culottes, cette démocratie directe, elle est incarnée par la Commune de Paris. Elle est incarnée par les clubs, le club des Jacobins, le club des Cordeliers. Et cette démocratie directe, elle aussi prétend incarner, parler au nom du peuple. Et toute l'histoire de la Révolution est une histoire l'histoire d'une tension difficile à réduire et qui n'a été peut-être réduite que par la figure de Robespierre, qui pendant quelques mois a été, je dirais, révolutionnairement et chimiquement pur. Toute l'histoire de la Révolution est l'histoire de cette tension entre la Convention nationale d'un côté et les sections parisiennes, les clubs, les comités de surveillance, les comités populaires, tout ce que vous voudrez de l'autre. Et au fond, le procès de Marie-Antoinette arrive au bout de cette tension. Ce sont les comités, ce sont les sections parisiennes, c'est la Commune de Paris qui, au nom de la pureté révolutionnaire, au nom de la vengeance, réclame la tête de Marie-Antoinette à la Convention. Et au fond, la Convention va se comporter un peu comme Ponce Pilate s'est comporté à l'égard de Jésus-Christ. Elle va s'en laver les mains et elle va abandonner Marie-Antoinette. C'est pour ça qu'elle est jugée devant le tribunal révolutionnaire, qui est contrôlé par la Commune de Paris, qui est contrôlé par les sections parisiennes. Elle va abandonner Marie-Antoinette. À chaque fois que Paris connaît ce qu'on appelle une journée révolutionnaire, une journée insurrectionnelle contre la Convention, Marie-Antoinette, si j'ose dire, fait un pas de plus vers l'échafaud et vers son destin tragique. Et donc, il faut bien comprendre. Alors, donc, à partir de là, à partir de ce que je vous ai dit, je vais essayer de vous raconter et de vous faire un espèce de portrait collectif de ces jurés qui ont condamné Marie-Antoinette à la mort à 4 heures du matin le 16 octobre 1993. Ces jurés, ils appartiennent à cette petite bourgeoisie sans culotte, activiste, et extrémiste parisienne qui fait la Révolution en 1793. Ils appartiennent à ce qu'on pourrait appeler la boutique parisienne. Ils sont de conditions modestes, même s'ils ont tous pignon sur rue, mariés, ayant des enfants. La moyenne d'âge, c'est à peu près 40 ans. Ils appartiennent au métier. C'est-à-dire que l'un est imprimeur, s'appelle Nicolas, l'autre est luthier, un troisième est charpentier, un quatrième est ébéniste, un cinquième est coiffeur, un sixième est ciseleur sur bronze. Ils appartiennent à la boutique et au métier parisien et ils sont tous membres des sections les plus activistes de la capitale. Plus on appartient à des comités de surveillance qui tous se surveillent les uns les autres, d'ailleurs, plus on a de pouvoir en révolution. Et ils accèdent comme jurés du tribunal révolutionnaire qui a été créé, qui est un tribunal d'exception, qui a été créé quelques mois auparavant, avant le procès de Marie-Antoinette. Ils y accèdent comme on accéderait à un immense pouvoir, alors que ils appartiennent, je dirais, au monde ordinaire, à la citoyenneté ordinaire de la Révolution. Et il y a aussi cet aspect intéressant, c'est celui de la griserie du pouvoir. Voilà des jurés qui vont siéger dans ce tribunal révolutionnaire pendant plusieurs mois, qui vont envoyer 2700 personnes à la guillotine, qui ont tout d'un coup un droit de vie et de mort sur leurs contemporains, sur leurs égaux, qui leur aurait été impensable quelques années auparavant. Il y a cette espèce de griserie absolue, alors même qu'ils ne sont pas préparés, du pouvoir qu'ils exercent, du pouvoir de vie et de mort qu'ils exercent et qu'ils vont exercer sur Marie-Antoinette au cours de ce procès. Donc voilà, je dirais, le portrait social. Et puis, il y a évidemment un portrait psychologique à faire, parce que, je savais, en vieillissant, on s'intéresse de plus en plus à la chair et au sang de ces personnages et à leur psychologie. On a quelque chose à voir avec la climatologie, nous autres historiens. On essaye de savoir quelle est l'ère du temps de la période sur laquelle on travaille. Non pas tant le temps qu'il fait, même si j'ai été voir l'Observatoire de Paris, s'il pleuvait ou s'il faisait beau ce 16 octobre 93, c'est important, mais l'air du temps. Percevoir cette espèce de climat particulier qui, en général, caractérise une époque ou une autre. Nous avons aujourd'hui, en 2016, notre air du temps, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y avait évidemment un air du temps en 1793. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces jurés? Et là, c'est absolument passionnant, parce que ces gens-là sont des personnages de la 25e heure. Ce sont les anonymes de cette histoire. Personne ne s'est jamais intéressé à eux. On ne connaissait même pas leur nom. Les biographes de Marie-Antoinette qui ont décrit Marie-Antoinette au cours de son procès ne se sont à aucun moment intéressés à eux. Il fallait les faire revivre à travers les archives, jouer un peu. Il y a toujours un Nestor Burma qui sommeille dans l'historien. Hein. Aller à la recherche des traces. Hein. Elles gisent encore là, les traces de l'étincelante armure, disait André Breton. Aller à la recherche de leurs traces, et je les ai retrouvées dans les archives nationales, dans la série W des pièces judiciaires des archives nationales, car eux-mêmes sont passés devant le tribunal révolutionnaire un an ou deux ans après Marie-Antoinette, et donc ils ont été confrontés à des témoins. On a parlé de leur vie, de ce qu'ils étaient. Ils ont écrit aussi pour essayer de se justifier. Ils parlent en général tous de leur conscience. Mais derrière cette conscience qu'ils évoquent pour se justifier de ce qu'ils ont été au sein de ce tribunal révolutionnaire, il y a, je dirais, comme disait ma mère, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y avait des sentiments incroyablement contradictoires. Il y avait certainement une conviction certainement rassurante de vivre enfin dans un monde dessiné en noir et blanc où tout était simple et facile, où les bons étaient d'un côté et les mauvais de l'autre. Ça, c'est un peu aussi ça, la Révolution française. Et puis, il y avait certainement un sentiment de revanche ou de vengeance sociale par rapport à ce que Marie-Antoinette incarnait, de fantasme, de sexualité, je dirais aussi de vice. Elle a été accusée d'être la grande Messaline du XVIIIe siècle, d'avoir couché avec tous les hommes quand elle n'avait pas couché avec toutes les femmes, d'où, on en parlera, l'accusation d'inceste qui lui sera portée, odieuse accusation d'inceste qui lui sera portée à la fin de son procès. Il y a donc ce sentiment de revanche, il y a certainement de l'ambition sociale dans la tête de ces jurés, il y a certainement aussi de la peur. C'est tous ces sentiments mêlés qui expliquent et qui peuvent donner à comprendre ces hommes ordinaires, ces 15 hommes ordinaires qui ont siégé à ce tribunal révolutionnaire et qui ont voté la mort de Marie-Antoinette le 16 octobre.
Alors, de quoi l'accuse-t-on précisément? Comment se déroule le procès? De quoi est-elle accusée? Comment se défend-elle? Quelle est son attitude face à ses juges et face aux jurés? Comment affronte-t-elle tout ça?
Alors, jamais quelqu'un, jamais femme n'a été autant injuriée, traînée dans la boue, vilipendée que Marie-Antoinette. Et je dirais avant même le déclenchement de la Révolution 1789. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Marie-Antoinette est accusée à peu près de tout, c'est-à-dire de complot intérieur, de manipulation contre-révolutionnaire à destination anti-républicaine. Elle est accusée d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire d'avoir correspondu, ce qu'elle a fait par ailleurs, mais je vous expliquerai pourquoi, d'avoir correspondu avec les puissances étrangères. Donc elle est à la fois traîtresse, comploteuse, et en plus, elle est accusée de vices sexuels extrêmement graves, et en particulier d'avoir couché avec son fils, le petit dauphin, qui était encore enfermé qui pour les royalistes était Louis XVII, qui était encore enfermé au temple. Alors qu'elle est absolument totalement, l'enfermement est quelque chose qui caractérise cette femme, enfermée dans sa solitude, devant ce monde qui lui est totalement, entièrement hostile, face à ces accusations extrêmement dures. Et après cet enfermement dont j'ai parlé, ces prisons dont j'ai parlé, mais qui ont commencé au fond dès 1789, dès l'arrivée de la famille royale aux Tuileries en octobre 1789, à mon grand étonnement, et grâce à des notes d'audience inédites que j'ai pu trouver dans les archives nationales, on parlera peut-être de ça aussi, dans l'armoire de fer. Ce n'est pas l'armoire de fer à laquelle vous pensez, ce n'est pas celle des Tuileries, c'est une autre armoire de fer qui existe encore, qui est au centre du grand dépôt des archives nationales, à l'hôtel de Soubise, et dans lequel se trouvent deux in-folios en maroquin rouge qui contiennent les pièces du procès de la reine. Et figurez-vous que ces pièces n'avaient jamais été vues par personne. Et on s'était contenté, les biographes de Marie-Antoinette s'étaient contentés de relire les procès-verbaux publiés au Moniteur universel de l'époque et dans les journaux révolutionnaires comme le Journal de la Montagne. Mais vous imaginez bien que le Moniteur universel de 1793, c'est la Pravda. C'est-à-dire que le Moniteur, étant donné la situation d'incroyable violence qui règne à l'époque, le Moniteur est aux ordres des comités, du comité de salut public, du comité de sûreté générale et de la Convention nationale. Et il rédige ce qu'on lui demande de rédiger, de même les journaux révolutionnaires comme le Journal de la Montagne. Et j'ai eu la chance de trouver dans cette armoire de fer 15 pages manuscrites que j'ai appelées, faute de mieux, anonymes, probablement rédigé par un huissier du tribunal, que j'ai appelé, faute de mieux, note d'audience, où on voit tout ce jeu des questions-réponses qui ont eu lieu au cours de ce procès entre Herman, le président du tribunal, les jurés, les témoins et la reine. Et là, on découvre une femme, ce à quoi je ne m'attendais pas, je vous dirais, extraordinairement digne, incroyablement maîtresse d'elle-même. Et pour finir, je dois dire que là, j'ai une forme de compassion pour elle, incroyablement courageuse. Jamais, et avec aussi ce qui m'a beaucoup étonné, étant donné l'image que j'avais moi-même de Marie-Antoinette, de cette jeune, cet enfant gâté, un peu légère et inconséquente et très frivole. Et aussi, je découvre une femme qui a un sens politique, qui a un sens de la répartie politique dans la situation où elle est. C'était vraiment pas évident. Étonnant. Je vais vous donner un seul exemple. Quand Herman lui reproche d'avoir organisé de bout en bout la fuite à Varennes, ce qui deviendra la fuite à Varennes, en juin 1791. J'espère que je vous perds pas trop dans tous ces événements révolutionnaires. C'est 2 ans avant le procès. Et ça a été un des grands tournants avec le procès de Marie-Antoinette de la Révolution. Quand le président Herman lui reproche d'avoir organisé la fuite à Varennes, il lui dit d'un air, parce qu'évidemment les questions sont posées pour la faire plier et la faire tomber, il lui dit c'est parce que vous vouliez remonter sur le trône. Et Marie-Antoinette lui répond du tac au tac, mais monsieur, nous n'avions pas besoin d'y remonter, nous y étions déjà. Et ce qui m'a étonné dans le comportement et l'incroyable présence de cette reine à son procès, c'est qu'elle incarne beaucoup plus que son mari à son procès à lui, qui ne savait pas s'il était le roi de la Constitution de 91 ou le roi de droit divin. Elle est la passionnaria du droit divin. Elle est la dernière à son procès à incarner les droits dynastiques et historiques de la monarchie française, des Bourbons et partant les droits de son fils, le petit Louis XVII. D'où le procès d'inceste qui lui sera fait. Mais avant de parler de ça, découvrant cette femme, ce comportement-là, cette dignité-là, je me suis dit, mais par rapport aux images qu'on a développé d'elle, d'une femme ordinaire, selon Zweig ou Evelyne Levert, d'une femme légère, et surtout dans les dernières années cinématographiques, je pense au film de Sofia Coppola, où on la voit se rouler dans ses chaussures, où elle est une sorte de diva des sleeping, ou sinon des Jerry Gay. Évidemment, j'avais là affaire à quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir avec ce que je savais, par le jeu des reflets, de la mémoire, qui n'est pas l'histoire, comme chacun sait, alors que je n'avais pas encore véritablement lu à fond tout ce qu'elle avait écrit, notamment ce qu'elle a écrit à sa mère Marie-Thérèse, et que je n'étais pas revenu sur les pas de sa vie, si j'ose dire. Et donc, pour comprendre cette attitude, il m'a fallu tenter une construction psychologique de Marie-Antoinette en revenant en arrière et en en dressant, en en faisant, en en écrivant un portrait psychologique qui, évidemment, diffère assez, en ce qui me concerne, de ceux qui ont été faits par les biographes de Marie-Antoinette qui m'ont précédé. Je commence par penser que Marie-Antoinette est tout sauf une femme ordinaire. D'abord parce qu'elle est née archiduchesse d'Autriche. Elle est tout de même la fille de Marie-Thérèse, qui était probablement la souveraine la plus puissante d'Europe avec Louis XV au tournant du XVIIIe siècle. Ensuite, parce que par le jeu de la politique internationale et du rapprochement de la France avec l'Autriche, qu'on a appelé le renversement des alliances de 1756, voulu par Louis XV et par Choiseul, elle a été appelée à épouser le futur roi de France, le dauphin, en 1770, et à devenir reine de France en 1774. Là aussi, c'est pas ordinaire. Et puis, elle n'est pas ordinaire non plus par sa constitution psychologique. Et là, c'est peut-être la partie la plus neuve que j'apporte au portrait, car je fais des portraits de tout le monde, des portraits des juges, des jurés, mais aussi, évidemment, le portrait de l'accusé. Il est assez long. C'est peut-être l'élément le plus neuf. Je considère que Marie-Antoinette, la petite Antoine, qui arrive en France en 1770, est quelqu'un qui ne s'aime pas et qui vit dans une espèce de malaise permanent vis-à-vis d'elle-même et par rapport à elle-même. Malaise permanent qui est accentué d'autant par cet incroyable traumatisme qui a été le sien lorsqu'on l'a conduit de Vienne à Paris, future jeune dauphine destinée au dauphin futur Louis XVI, et qu'on l'a fait traverser le Rhin au large à côté de Strasbourg, qu'on l'a fait se déshabiller de ses habits d'archiduchesse d'Autriche et revêtir les habits de dauphine qu'elle portera désormais, puis de reine de France. On lui fait quitter, au fond, un monde de l'enfance surprotégé, qui était le monde de Schönbrunn et de Vienne. On lui fait quitter sa maison, ce qu'on appelait la maison, c'est-à-dire ses gouvernantes, ses dames de compagnie. Elle a 14 ans, n'oublions pas, avec lesquelles elle vivait depuis son enfance. Et on la projette brutalement dans un monde totalement inconnu. Même si elle maîtrise le français, on lui reprochera toujours de prononcer le français avec un fort accent allemand. Et elle entre dans un monde, même si Marie-Thérèse, sa mère, a essayé de préparée, elle entre brutalement dans un monde totalement inconnu qui, peut-être, du point de vue des monarchies et de la cour, est le pire des mondes européens qui pouvaient exister. C'est celui de Versailles, c'est celui de la cour de Versailles. Il faut lire les lettres écrites 50 ans auparavant par la princesse Palatine, la femme du duc d'Orléans, lorsqu'elle parle de Versailles dans les années 1680-1690, qu'elle compare un monde d'artifices, de chausse-trappes, de miroirs, hérissés de miroirs et de clous. C'est une expression qui m'appartient, qui n'appartient pas à la princesse Palatine. Un monde de mensonges, d'envie, d'ambition, de jalousie. Et Marie-Antoinette, fragilisée par la brutalité de ce changement de vie qu'on lui fait subir, mal à l'aise avec elle-même, et merci Argenteau, l'ambassadeur d'Autriche qui est chargé de la surveiller, par Marie-Thérèse est chargé de la surveiller, le dit, il écrit « La jeune dauphine n'aime pas être en public, elle n'aime pas parler en public, elle n'est pas sûre d'elle-même ». Le prince de Ligne a quelque chose de très très touchant, qu'il a bien connu, dit à un moment donné dans ses fragments « Marie-Antoinette, probablement, il n'est pas un jour de sa vie où Marie-Antoinette ait été heureuse. Elle n'a jamais été heureuse selon ceux qui, au fond, l'ont le mieux connue. » Un autre petit détail qui explique ou qui donne à penser quant à cette espèce de difficulté que Marie-Antoinette entretenait avec elle-même, c'est que pendant des années et des années, elle n'a pas accepté ses peintres. Elle n'aimait pas les images qu'on lui donnait d'elle-même. Elle le dit dans les lettres à sa mère. Il a fallu qu'elle attende 1778 et celle qui deviendra son peintre officiel, Elisabeth Vigier-Lebrun, pour qu'elle accepte ses images, qu'elle accepte ses représentations. Le fait de ne pas aimer son reflet, si j'ose dire, c'est aussi un signe du malaise qu'on entretient avec soi-même. Et donc, étant donné ce que je crois qu'elle était psychologiquement, ça ne m'étonne pas qu'elle ait fui, mais elle n'a pas tant fui Versailles qu'elle s'est fuite elle-même, s'est enfuie d'elle-même au fond. Elle a pris la fuite pour essayer, dans une espèce de monde reconstitué, de monde protégé qui était celui du petit Trianon, de monde ouaté, de réinventer une Thébaïde, ce qu'on appelait le cercle de la reine ou la société de la reine, cette espèce d'immense désir de plaire à quelques-uns de ses amis prouve que sans doute, elle ne se plaisait pas à elle-même. Il y a une forme dans le petit Trianon de rattrapage des malaises, des incertitudes, du manque de confiance que Marie-Antoinette avait en elle-même. Ceci va durer et ceci va contribuer certainement au fantasme et à l'image désastreuse qui sera la sienne dès la fin des années 1780, surtout à travers l'affaire du Collier et du cardinal de Rohan en 1785. Et ceci la conduit en 1789. Et en 89, elle va subir un deuxième traumatisme, qui est comme le pendant du traumatisme de 1770. En 1789, elle se retrouve face à un mari qui, pour un certain nombre de ses historiens, je pense aux Américains, à Munro Price, étant donné la situation qu'il a à affronter, commence une très forte dépression, donc qui n'exerce plus le pouvoir. Elle se retrouve avec un fils aîné qui est en train de mourir et qui mourra en effet le 4 juin 1789. On oublie toujours que Marie-Antoinette, la famille royale, est confrontée à la mort d'un enfant alors même qu'on convoque les États généraux et que la nation se dresser violemment et brutalement contre la souveraineté monarchique au cours de ce mois de juin 89. Et au cours de ce même mois, le fils aîné de Marie-Antoinette meurt tuberculeux de pneumonie à Meudon le 4 juin. Et elle est confrontée in fine à la Révolution elle-même. Et à la différence de ce qu'elle a fait en 1770, face à ce deuxième choc psychologique, elle va décider de faire face à son destin et de faire face à elle-même et de s'affronter elle-même en affrontant la Révolution. Et au fond, il y a un espèce de tournant. Au fond, elle va, pour la première fois, considérer l'importance de ses devoirs. Et si Marie-Antoinette a vaincu au cours de ce procès, alors c'est un paradoxe que je vais formuler là, mais qui est intéressant, auquel on peut réfléchir. Elle a vaincu par l'obéissance. Obéissance à sa naissance, obéissance à ses devoirs de reine, à sa condition, à son statut de reine, qu'elle a été jusqu'au bout au cours de son procès, obéissance à ce qu'elle était au fond. Et on a là une femme qui, pour la première fois, après s'être fui elle-même pendant des années et des années, qui se retrouve face à elle-même et qui décide, qui a ce courage de s'affronter elle-même et en s'affrontant elle-même, d'affronter la Révolution française.
Comment va-t-elle affronter le verdict ? Et quels sont les derniers instants de sa vie ? Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ?
Oui. Alors, on a peu parlé de cette ultime accusation portée par le tribunal révolutionnaire à Marie-Antoinette, qui est l'accusation d'inceste, et il faut en parler. Pourquoi ? Alors, d'abord, contrairement à ce que beaucoup de ses biographes ont dit, qui, sur la base de récits qui ont été écrits bien après du procès, souvent écrits sous la Restauration, dans un contexte politique qui n'avait absolument plus rien à voir avec celui de la Révolution. La Restauration, c'est le règne de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, et qui ont décrit les tricoteuses, le public qui était nombreux, qui assistait à ce procès en émoi et presque en révolte face aux accusations d'inceste portées par Hébert contre Marie-Antoinette. Hébert qui accuse Marie-Antoinette et sa belle-sœur, Madame Élisabeth, de coucher avec le petit dauphin. Je n'en crois rien. Je crois que l'accusation d'inceste, d'un point de vue psychologique, je me mets dans la psychologie des révolutionnaires et des activistes, n'est qu'une accusation de plus par rapport à toutes celles qu'on lui a portées d'être tribade et messaline, de coucher avec ses amants et ensuite de les tuer en catimini. Les pamphlets qui se bousculent à partir de 89 contre elle sont absolument inouïs. On demandera à l'exposer place de la Révolution dans une cage de fer. On proposera de la faire juger avec deux prostituées pour mieux l'avilir et la rabaisser. Et donc, je pense que ce procès d'inceste n'a à aucun moment n'a scandalisé les révolutionnaires, pour qui, étant donné ce qu'elle était, une vicieuse et une salope absolue, pour qui il était normal qu'elle fasse ce qu'on l'accusait d'avoir fait. Mais au-delà de ça, il y a une dimension évidemment politique à cette accusation d'inceste. Car on va tuer la reine, mais que fait-on du petit roi ? Car aux yeux des royalistes, le petit, le garnement, comme on l'appelle, le fils Capet, comme on l'appelle dans les documents révolutionnaires, il est toujours en vie, il a 8 ans, il est à la tour du Temple, et on ne peut tout de même pas le tuer alors qu'on va tuer sa mère. On finira d'ailleurs par avoir raison de lui, à force de mauvais traitements, il finira par mourir, je pense officiellement en tout cas, je pense officieusement aussi en 1795. Mais que fait-on de ce petit dauphin qui, aux yeux des royalistes, vous savez, c'est le principe de l'hérédité monarchique, le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif, et donc le petit dauphin, pour les royalistes, c'est Louis XVII. Et ça, c'est un peu gênant du point de vue de la République et du point de vue de la Révolution. Donc que fait-on? Comme on ne peut pas s'adonner à un deuxième régicide sur le dauphin, il y a eu un premier régicide qui est le régicide de Louis XVI, on va inventer une nouvelle forme de régicide que j'appelle, moi, le régicide moral. C'est-à-dire qu'on va l'avilir à travers la personne de sa mère, en l'accusant et en extorquant des aveux sous la peur au temple, en l'accusant en accusant sa mère sur témoignage de son fils d'avoir couché avec elle. Et la meilleure façon de trancher le cordon ombilical de l'hérédité monarchique, au fond, c'est cette accusation-là. On touche au ventre de la reine, et en touchant au ventre de la reine, on touche à l'hérédité monarchique, et on avilit tellement cette hérédité qu'elle n'existe plus, faute de pouvoir se débarrasser du dauphin et l'éliminer. Donc cette accusation d'inceste, et Hébert va très loin, vous voyez qui est Hébert, qui est l'un des témoins qui comparaît et qui porte cette accusation d'inceste au cours du procès. Hébert représente, si vous voulez, l'aile extrême, d'extrême gauche de la Révolution. Il est le rédacteur d'un journal qui s'appelle Le Père Duchesne et qui, alimente les haines révolutionnaires contre les contre-révolutionnaires, les suspects et Marie-Antoinette. Voilà des mois et des mois que le père Duchesne, alias Hébert, injurie dans les colonnes de son journal la reine déchue, prisonnière du temps, puis de la conciergerie. Donc tout ceci, si vous voulez, est à la fois psychologiquement et politiquement cohérent. Voilà, c'est ça que j'essaye, et c'est ça que j'essaye de raconter aussi. Et face à cette accusation d'inceste, Marie-Antoinette ne va pas se départir de son courage et de sa présence d'esprit et de cette étonnante maîtrise de soi qui a été la sienne. Elle prononce cette phrase qui a été reprise aussi dans la presse, mais que j'ai trouvée dans les archives manuscrites de l'Armoire de fer, qui a été reprise dans la presse révolutionnaire, qui concède cette réplique de Marie-Antoinette. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes dans cette enceinte contre cette accusation d'inceste. Comment pouvez-vous croire? Comment vous autres mères révolutionnaires, les tricoteuses qui sont là, comment pouvez-vous croire que cette accusation a une once de vérité? C'est un des moments probablement a posteriori les plus émouvants du procès de Marie-Antoinette. L'autre moment parmi les plus émouvants, c'est évidemment le moment du verdict. À la suite de la plaidoirie de ses avocats, on pourrait parler de ses avocats Chauveau-Lagarde et Tronson du Coudray. Ce sont des avocats d'assises, hein, un peu comme le sont encore les avocats d'assises aujourd'hui. Mais bon, je ne peux pas aller trop loin dans les détails. Le prononcé de la peine intervient à 4 heures du matin, le 16 octobre, et elle n'a que quelques heures entre le moment où elle sait, alors même que je suis persuadé que Marie-Antoinette, et ça explique en partie aussi son courage, était convaincue qu'elle allait ne pas être condamnée. Elle est du côté de la vie, Marie-Antoinette. Je pense que physiquement, humainement, on ne peut pas ne pas conserver jusqu'au bout, même lorsqu'on sait qu'on a affaire à un procès absolument politique. On ne peut pas ne pas croire, espérer en une issue positive, à moins de se suicider et de s'abandonner complètement. C'est un des éléments d'explication du courage qui a été le sien. Il y en a un autre, à mon avis, qui est peut-être moins agréable à prononcer, mais je pense qu'on a d'autant plus de courage devant la mort quand on méprise ceux qui vont vous la donner, quand on méprise ses accusateurs. Et je suis persuadé que Marie-Antoinette méprisait ses bourreaux et ses accusateurs. Ça, j'en suis. Dans les lettres qu'elle écrit sur les activistes révolutionnaires à Yolande de Ponignac ou à Merci ou à d'autres, c'est pour elle, la révolution, c'est un incroyable quiproquo, l'histoire de ce procès. Car qui est le traître de qui dans cette histoire? Est-ce que c'est Marie-Antoinette qui est la traîtresse de la révolution, ou est-ce que c'est la révolution qui trahit la monarchie qu'incarne Marie-Antoinette. C'est là où on voit la relativité des choses. Hein. Et chacun est enfermé dans son monde. Et évidemment, la trahison est des deux côtés. Et c'est en cela que le procès aboutit à la condamnation à mort. Et donc, Marie-Antoinette n'a que quelques heures entre le prononcé de la peine, 4 heures du matin, 16 octobre, et 11 heures du matin, où on l'a fait monter dans la charrette qui va la conduire à l'échafaud, place de la Révolution, et où elle mourra sur l'échafaud à midi. À aucun moment, au cours de ces heures, où elle a la présence d'esprit d'écrire une lettre qu'on appellera par la suite improprement le testament de la reine, d'écrire une lettre extraordinaire et que j'authentifie, moi, à sa belle-sœur, Madame Elisabeth, où elle confie ses enfants, sa fille et son fils à sa belle-sœur, qui est une lettre qui ressemble énormément par son style, par le caractère qui est renfermé, qui ressemble énormément aux autres lettres qu'elle avait écrites autrefois aux Tuileries et même au Temple. Et elle va monter dans cette charrette et au fond, c'est une humiliation de plus. 4 km de parcours depuis la conciergerie, le palais de justice actuel, jusqu'à la place de la Concorde, appelée place de la Révolution. On passe par cette interminable rue Saint-Honoré où le peintre David était planqué à une fenêtre, voit passer le cortège et croque pour la dernière fois la silhouette d'une Marie-Antoinette, les mains prises derrière le dos, extrêmement raide et probablement déjà enfermée dans cette préparation qui est la sienne de ce qui va lui arriver dans quelques quarts d'heure. 300 000 personnes dans la rue. J'ai fait le parcours à pied. 1h15 de parcours, 4,5 km, des injures tout au long du parcours. Et la charrette qui l'a conduit à l'échafaud, elle roule depuis la nuit des temps, cette charrette. Hein. C'était déjà la charrette des sorcières du Moyen-Âge, du 14e et du 15e. C'est la charrette d'infamie. On l'a fait s'asseoir sur cette charrette dans le sens opposé de la marche de la charrette. Et ça, c'était un traitement qui était réservé déjà aux sorcières du Moyen-Âge. Dans les grands procès de sorcellerie, on retrouve ça. Et évidemment, elle ne sera pas la seule à subir cette humiliation-là. Tous les condamnés à mort du tribunal révolutionnaire seront placés ainsi sur cette charrette. Et jusqu'au bout, elle arrive à place de la Révolution. Elle ne défaille pas en montant les degrés de bois qui la conduit sur cette plateforme fatale de l'échafaud. On lui fera dire dans la presse révolutionnaire, on la fera marcher sur le pied de son bourreau, de Samson, qui va l'exécuter, et on lui fera dire « Oh, excusez-moi, monsieur le bourreau, mais je ne crois pas une seconde dans cette anecdote qui est racontée par les journaux révolutionnaires, dans un sens politique très précis. On veut, alors que Marie-Antoinette s'est comportée avec une très grande dignité et, je dirais, beaucoup de calme, on veut la montrer une dernière fois comme cette femme frivole d'une politesse d'apparence qui était encore celle-là au moment de sa mort et qui était celle de la reine de Versailles, de la cour de Versailles, du petit Trianon. Je pense que pas une seconde elle n'a prononcé ces mots, qu'elle n'a évidemment pas marché sur le pied de son bourreau, qu'elle n'a rien dit et qu'elle s'est comportée avec le courage que le courage étonnant qu'elle a, quand on compare sa mort à celle de l'une des grandes maîtresses de Louis XV, qui était Madame du Barry, qui va mourir quelques mois plus tard sur ce même échafaud. Madame du Barry va mourir dans les suffocations. On va être obligé de la traîner sur l'échafaud tellement elle résistera, tellement l'angoisse, la peur panique de la mort l'habitera. La peur panique de la mort habitait certainement Marie-Antoinette, certainement. Mais elle a su l'affronter. Vous savez, j'ai toujours été intéressé, et en dehors de mes livres d'histoire, quelquefois je commets quelques petits essais plus littéraires, notamment l'un d'entre eux qui s'appelle « Fin de partie », qui est une série de petits portraits d'écrivains que j'aime, que je regarde dans les rapports qu'ils ont entretenus entre la vie et la mort et au moment de leur mort. Et je trouve qu'on comprend souvent mieux les personnages auxquels on a affaire, les protagonistes auxquels on a affaire, quand on les regarde à ces moments-là, dans des moments, les moments où ça saigne, pas les moments les plus faciles. Et il est probable que c'est un des éléments qui m'ont conduit, cet intérêt que je peux avoir quant aux comportements de l'homme, de l'humanité face à la mort qui m'ont conduit à ce procès et à raconter, à conduire le récit des derniers moments de cette reine déchue, archiduchesse d'Autriche. Merci.